Vous écoutez RTL.
RTL, première radio de France. Bon après-midi sur RTL.
RTL, la curiosité est un vilain défaut.
De 14h à 15h, avec Sidonie Bonnec et Thomas Hugues.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans votre cabinet de curiosité. Comment va la jeune, la sublime Sidonie Bonnec?
Ah, j'aime pas, je sais que vous avez un truc à me demander après l'émission, ça m'inquiète toujours.
Juste après.
Bonjour Thomas, 15h05. Je vais heureusement très bien, j'espère que vous aussi. On est ensemble jusqu'à 15h sur RTL, une heure de découverte et de bonne humeur.
Alors si vous nous découvrez à cette heure-ci sur RTL, c'est possible, puisque les saisons précédentes, on était là de 20h à 22h. Sachez que tout nous intéresse, tout nous passionne, tout nous rend curieux. L'histoire, la musique, la science, les destins hors normes et ce qui défie la raison aussi.
Bah oui, comme ces histoires de fantômes français. Oui, mesdames et messieurs, on hante français chez nous. Alice, Esclarmonde de Péreil, encore Thérèse de Saint-Clar, des femmes aux histoires souvent dramatiques qui entraient des châteaux pour qu'on ne les oublie jamais. On va vous raconter comment elles sont apparues et pourquoi on aime croire aux fantômes.
Allez, tout de suite, l'humour de Pierre Desproges sur RTL.
Je suis dyslexique, je confonds les T et les F.
C'est chiant.
Et je suis gaucher contrariant. Oui, c'est plus fort que moi, j'emmerde les droitiers.
RTL.
Non mais vous les avez vus, les coiffeurs, Faubourg Saint-Honoré ou sur les Champs-Élysées, qui s'habillent en cosmonaute pour couper les cheveux des gens, ça va pas, non? C'est aussi con que d'aller sur la lune avec un peigne derrière l'oreille, non?
Curiosité est un vilain défaut.
Comme vous me voyez, là, je suis incapable de reconnaître un rayon laser d'une corde à linge ordinaire. Ou un chien qui pète d'un avion carniste.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues, jusqu'à 15h sur RTL.
De Pierre Desproges, on se souvient de ses sketchs qui ressortent régulièrement, son nom cité comme une référence de l'humour noir. On ne connaît pas forcément son histoire, c'est ce que l'on découvre tout de suite avec notre invité, le journaliste Philippe Durand. Bonjour.
Bienvenue. Bonjour.
Vous allez bien?
Très bien, merci.
Vous revenez un peu trop souvent dans cette émission, c'est pas raisonnable.
Il paraît que vous manquez d'invités.
Non, c'est pas pour ça. C'est peut-être que vous étiez correct la dernière fois, on s'est dit on va le faire revenir.
C'est surtout que vous ne manquez pas d'histoire.
Voilà, c'était sur l'Innoventura pour ceux qui ne savent pas de quoi on parle et vous pouvez la réécouter cette émission sur RTL.fr. Alors, Desproges. Une première anecdote pour commencer. Il est jeune journaliste pour le quotidien L'Aurore. Il fait un portrait de Jacques Mesrine, qui vient de se faire arrêter. C'est quoi? C'est un portrait à la Desproges, c'est-à-dire moqueur, un peu caustique, un peu...
Ah bah c'est très 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 caustique, oui, parce qu'il s'en prend à Mesrine, ça va mal. Et donc il commence à le flinguer par mot interposé, ouais. Il va assez loin et il le traite plus ou moins de lâche, quoi, en disant qu'il s'est fait arrêter facilement, etc. Ce qui n'est pas le truc à dire sur un mec comme Mesrine, parce que c'était pas un comique. Et donc il y a eu effectivement échange de courrier.
Comment il réagit, Mesrine? Qu'est-ce qu'il fait?
Très très mal, il réagit très mal. C'est-à-dire qu'il le menace en disant, si vous avez des choses à dire, venez me les dire en face, c'est-à-dire en prison.
Et il lui écrit à l'Aurore.
Il lui écrit à l'Aurore, oui, tout à fait. Il y a eu un échange de courrier. Et en fait, Desproges, au début, le prenait à la rigolade, mais il a compris qu'il avait face à lui un sujet très sérieux. Et que si Mesrine sortait de prison, ce qui a été le cas d'ailleurs, et il pouvait le retrouver dans un coin de rue avec un flingue à la main, et là, ça se serait terminé très mal.
Mais ça le flatte, Desproges, à la fois, tout le grand Paris des médias bruise de cette affaire. Est-ce qu'il est flatté?
Oui, il est flatté parce qu'il se rend compte d'une chose à ce moment-là, c'est que les mots sont peut-être plus efficaces que les balles. C'est-à-dire que pour toucher quelqu'un comme Mesrine, il y a des armées de flingueurs qui ont essayé, et lui, avec quelques mots, il a réussi à le toucher, même à le secouer. Et là, tout d'un coup, Desproges prend conscience de la puissance des mots. Effectivement, il est flatté parce qu'il se dit je sais manier les mots, et c'est ce qu'il va faire toute sa vie. C'est-à-dire qu'il va jouer avec les mots, il va s'en servir comme des balles, comme des flèches, et ça va être la carrière de Desproges.
Philippe Durand, vous publiez une biographie de Pierre Desproges aux éditions First Document. On y découvre un enfant de la guerre. Il est né en 1939. Oui. Où se déroule son enfance?
Alors c'est une enfance assez compliquée parce qu'effectivement il y a la guerre, donc on va passer les années bébés qui ne l'ont pas forcément marqué, mais ensuite il a son père qui est directeur d'école, donc son père l'emmène au Laos, il l'emmène en Côte d'Ivoire, lui-même à un moment s'exile entre guillemets dans le Limousin, c'est de là que vient son amour pour les belles limousines, et donc il a vécu un peu à la campagne, beaucoup à l'étranger, un peu à Paris, donc il y a une enfance très, très secouée, très mouvementée.
Et riche aussi j'imagine.
Riche en événements mais riche en solitude, c'était c'est-à-dire qu'à ce moment-là, Desproges découvre les douleurs et les joies de la solitude. Ses parents étaient un peu éloignés par moments. Il se retrouve quelquefois tout seul avec son père, quelquefois tout seul avec ses grands-parents, avec son frère qui est plus ou moins présent. Enfin, donc, il a quand même une enfance enfance assez solitaire.
C'était un gamin farceur ?
C'était un gamin très farceur, très très farceur, surtout dans le Limousin, à l'école. Sa prof s'en est souvenue très longtemps des blagues qu'il faisait. Mais c'était des blagues à la Desproges, donc il fallait suivre un peu, c'est-à-dire qu'il était capable de tout et du pire. Ouais. Et donc ça a marqué le caractère de Desproges, de cet humour si particulier qu'il a développé, et ce goût très profond pour la solitude. C'était vraiment son allié, la solitude.
Desproges qui savait aussi se moquer de sa famille. Il s'invente, dans l'un de ses sketchs, une famille obsédée par le sexe. Écoutez.
Mon père est bisexuel, ma mère est trisexuelle. J'ai un oncle octosexuel. Et mon chat a 9 queues. C'est énorme. Même ma sœur qui est militante le canuettiste de base. Ben elle pense qu'à ça. Est-ce que ça ne prouve pas à l'évidence qu'on peut être à la fois marginal et clitoridienne ?
Jean Le Canuet, pour les plus jeunes, qui avait mis le général de Gaulle en ballottage lors d'une élection présidentielle. Le premier métier de Desproges, ce sera le journalisme. Dans un instant sur RTL, on vous raconte comment il fut sauvé du licenciement par une certaine Françoise Sagan.
14h-15h, RTL. La curiosité est un vilain défaut. Votre après-midi sur RTL. 14h, la curiosité est un vilain défaut. Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
Chaque jour, on répond aux questions qu'on se pose tous et à celles qu'on ne se pose pas.
Autour d'intervenants passionnés et donc passionnants.
15h, on est fait pour s'entendre. Flavie Flamand.
Des thèmes qui nous concernent tous, de l'interactivité, mais des rires aussi.
À 16h, retrouvez Laurent Ruquier et les grosses têtes.
Vous faire rire en répondant à des questions culturelles ou des questions sur l'actualité, c'est le plaisir quotidien des grosses têtes sur RTL.
Vous êtes bien sur RTL.
RTL, première radio de France.
Il y a un truc qui fout dans la flotte, je sais pas comment le définir. D'un coup, tu retrouves pas dans le côte de Beaune, tu vois. Dégueulasse.
La curiosité est un vilain défaut.
Je voulais devenir cadre à la SNCF. Oui, oui, oui. Ne plus mépriser cette voix qui me poussait au train. À quoi bon, me disais-je, faire un bras d'honneur au chemin de fer quand on perd son bras de fer sur les chemins de l'honneur?
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues, jusqu'à 15h sur RTL.
Desproges est mort le 18 avril 1988, ça fera 30 ans dans quelques mois, mais on le célèbre déjà avec la sortie de plusieurs livres, dont celui de notre invité Philippe Durand. Voici comment André Torrent annonce le décès de l'humoriste sur RTL.
André Torrent, bonjour, nous sommes le mardi 19 avril 1988, RTL, il est 5h. Thierry, bonjour.
Bonjour André. Pierre Desproges avait donc 49 ans. Il est décédé hier soir à 19h d'une grave maladie, comme on dit, c'est-à-dire d'un cancer, dans un hôpital parisien.
Philippe Durand, comment sa famille a annoncé la mort de Pierre Desproges ?
Alors, on a dit longtemps que c'était lui qui avait trouvé cette formule « Pierre Desproges est mort, étonnant, non ?» Donc, formule qui...
Il est mort d'un cancer. Le mot cancer est dans le communiqué.
Tout à fait.
Étonnamment, non, c'est comme ça qu'il finissait
la minute nécessaire de M. Cyclopède, voilà. À la télévision. Et en fait, la formule officielle donc, a été inventée par sa famille. En hommage à son humour et à sa forme de dérision par rapport au cancer qu'il a beaucoup côtoyé, dont il a énormément parlé.
Il a beaucoup parlé de ça dans ses spectacles ?
Il en parlait presque tout le temps, en fait, dans presque tous ses spectacles. Alors, c'est vrai qu'il avait été très marqué par une de ses amies qui était morte du cancer. Il avait vu l'inactivité et ce qu'il appelait l'incompétence des médecins par rapport à cette maladie. Ça l'avait beaucoup choqué, beaucoup traumatisé, mais il en a parlé pratiquement dans tous ses spectacles, et j'allais dire presque dans toutes ses interviews. Et c'est assez étrange que tout d'un coup, la maladie, qui n'a pas beaucoup d'humour, lui soit revenue dans la figure en lui disant « Maintenant, t'en as parlé, mais maintenant, je suis avec toi, et ça va mal se terminer. » Et donc, il y a effectivement cette relation permanente entre Pierre Desproges et le cancer.
Et la mort aussi, avec notamment ce sketch dans le spectacle Dernière Volonté.
En tout cas, j'interdis formellement aux larbins de la maison Roblot de venir emmerder ma veuve avec des catalogues de cercueils. Parce qu'alors là, je vous préviens, croque-mort de France, mon cadavre sera piégé. Le premier qui me touche, j'y pète à la gueule.
Philippe Durand, on le disait tout à l'heure, le premier métier de Desproges, ça a été le journalisme. Est-ce que c'était un bon reporter, un bon journaliste ?
C'était un très mauvais reporter, exécrable. C'est-à-dire qu'il était infoutu de poser des bonnes questions et infoutu d'aller chercher la bonne réponse. C'est-à-dire quand vous faites du reportage, en général, il faut un peu titiller l'invité, surtout quand c'est pas quelqu'un de connu, qui a pas l'habitude de parler, donc il faut aller chercher l'information sur place, etc. Lui, il était dans les faits divers, donc il faut s'en souvenir. Et ce qui est le reportage le plus difficile à faire. Donc il était tellement mauvais qu'on l'a remis dans un bureau. Et comme il était pote avec rédacteur en chef, qui appréciait beaucoup son humour et sa façon de travailler, lui a dit, bon, plutôt que d'aller sur le terrain, tu vas nous faire des petits textes, des brèves, en fait.
Des billets d'humeur, oui.
Des brèves, qui sont devenus effectivement des billets d'humeur. C'est-à-dire qu'il ramassait toutes les petites informations qui étaient inutilisées, il en faisait sa petite tambouille avec ça, et il en sortait des billets d'humeur qui étaient magnifiques.
Sauf que les lecteurs de l'Aurore n'aimaient pas trop. Qui a sauvé, d'une certaine façon, la tête de Pierre Desproges, qui était menacé de licenciement plusieurs lecteurs avaient écrit.
Ah oui, il y avait de très nombreux lecteurs. L'Aurore, donc, journal qui a disparu depuis, n'était pas un journal ni humoristique, ni comique, ni même désopilant. Et donc, à cette dernière page, il y avait En Bref, qui faisait rire ceux qui avaient de l'humour. Ce n'était pas forcément les lecteurs de l'Aurore. Donc, beaucoup, beaucoup de plaintes, ce qui monte en haut, à la haute direction. Et là, on décide, on va licencier M. Desproges. Et à ce moment-là, l'affaire commence à s'ébruiter et quelqu'un appelle le journal en disant « Moi, je ne lis l'Aurore que grâce et avec ces notions en bref. » Et c'était Françoise Sagan qui avait appelé pour dire ça.
Françoise Sagan qui jouera aussi un rôle important dans la carrière télé de Pierre Desproges grâce à cette interview inoubliable.
La robe, là, c'est bien, ça. C'est pas mal comme tissu, ça. C'est quoi ?
Oh, c'est un mélange de toile, de flanelle, de drap, je sais pas quoi. C'est une jupe. Hein.
Ça pluche pas, ça ?
Non. Non, ça bouge pas, ce tissu assez sec.
Ça se lave comment ? Ça se lave à l'eau tiède, ce truc-là, non ? Ce genre de...
Eh bien, il y a... Non, ça se lave plutôt... C'est plutôt des choses qu'on met chez le teinturier.
Et ça dure comme ça pendant 10 minutes. Si vous ne l'avez jamais vu, franchement, regardez cette interview en longueur.
Elle sait qu'il plaisante ou alors elle...
Je crois pas.
Elle a un doute.
Elle ne le sait pas. Et c'est là qu'on voit la courtoisie, la gentillesse de Françoise Sagan qui pourrait l'envoyer sur les roses et qui va jusqu'au bout de l'interview. On va vous raconter, c'était dans l'émission Le Petit Rapporteur, comment le destin de Desproges s'est marié, mais pas si longtemps, avec cette émission dirigée par Jacques Martin. Tout de suite sur RTL.
Vous écoutez RTL.
J'ai un quotient intellectuel de 130.
Ouais. Je peux siffler.
C'est énorme. L'intelligence, c'est comme les parachutes. Quand on n'en a pas, on s'écrase.
La curiosité est un vilain défaut.
Il va peut-être falloir commencer à penser à y aller, hein. Comme disait Jean-Paul Sartre, en sortant du lit d'Elsa Triolet. C'est pas que je m'emmerde, mais il est tard.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues, jusqu'à 15h sur RTL.
L'humour de Pierre Desproges dans la curiosité. On était avec le journaliste Philippe Durand pour raconter son histoire, pour se faire plaisir aussi en réécoutant certains de ses sketchs. Desproges qui a été l'un des piliers du Petit Rapporteur générique. Émission de télévision restée culte, dirigée par Jacques Martin. Desproges, il y a traîné longtemps.
Alors d'abord, Desproges n'était pas tout à fait au début, il est arrivé un petit peu après que Jacques Martin ait essuyé les plâtres. Et lui n'est pas resté très longtemps parce que peu de monde en fait s'entendait avec Jacques Martin. C'était quelqu'un de très intelligent, très très fort, mais aussi un peu dictateur. Dans ses prises de position. Il connaissait très bien la télé, donc il savait ce qu'il fallait faire et ne pas faire. Et ça, Desproges avait du mal à suivre ce raisonnement.
Il avait du mal à avoir un boss, Desproges.
Et il a toujours eu du mal à avoir un boss. En fait, il s'est fâché avec tous ses boss. Il était heureux que tout seul, en étant son propre patron et son propre, en suivant sa propre voie, en fait.
Ouais, il est resté 6 mois, je crois, aussi 7 mois.
Oui, c'est ça. Il est resté.
Et il a eu le temps de se faire censurer, quand même. Racontez-nous cette anecdote.
En fait, l'histoire, c'est que Jacques Martin lui a censuré plusieurs sujets qu'il trouvait assez moyens ou assez creux. Plus un grand sujet qu'il a censuré, c'était le général Bigeat. Alors là, il faut refaire l'historique du général Bigeat. Mais enfin déjà son nom à lui-même situe le bonhomme. Donc c'était un général très important qui avait été, je crois moi d'ailleurs, ministre de la guerre ou quelque chose de la défense.
Il était secrétaire d'État à la défense.
Et en cours d'interview, Desproges, qui reste Desproges, lui dit écoutez, j'ai un petit neveu là qui a pas envie de faire son service militaire. Est-ce que vous pourriez lui arranger le coup, parce que là ça le passionne pas du tout. Et dire ça à un général, c'est le dernier truc à dire, surtout devant des caméras. Et en fait, ça se filme. Et Bigeat ne dit rien sur le moment, mais dès que Desproges est parti, il appelle son secrétariat, il appelle l'Élysée, il appelle tout le monde.
Ça devient un scandale.
Menace sur Desproges et tout ça. Et Jacques Martin est obligé de céder en disant on ne passera pas ce sujet. Et là, Desproges est écœuré.
Alors, Desproges n'aimait pas les boss. En tout cas, il aimait les copains de talent. Certains de ses sketchs en duo sont restés cultes, comme celui qu'il formait avec Thierry Leluron.
Je suis venu vous présenter tous mes voeux pour 1977.
18.
Ah bon ?
Ah oui.
Tout augmente. Mon cher Morosi.
Excusez-moi, mon caporal chef, mais je m'appelle pas Morosi, je suis issu d'une vieille famille de coureurs cyclistes. Mon aïeul, Germaine, elle
même pas. On vous demande pas si votre grand-mère fait du vélo. Les Françaises et les Français jugeront qu'il y a quand même des urgences plus cruciales.
Le Luron qui imite bien sûr Valéry Giscard d'Estaing, Philippe Durand. Que change la télé pour Pierre Desproges? Il va gagner en popularité et va remplir son compte en banque aussi?
Oui, absolument. C'est-à-dire que du jour au lendemain, il devient connu dans toute la France, parce qu'il faut se souvenir qu'à l'époque, il n'y avait pas beaucoup de chaînes, que quelque chose comme Le Petit Rapporteur était très, très, très regardé, vraiment des millions de spectateurs. Donc, du jour au lendemain, on découvre Pierre Desproges. Lui, ça lui met du beurre dans ses épinards, parce que son petit salaire de grouillot à l'aurore est triplé, si ce n'est qu'à quadruplé. Et donc, la vie va bien pour lui. En plus, il devient l'une des célébrités du Petit Rapporteur, parce qu'ils sont assez nombreux. Mais lui, c'est quelqu'un qui est très remarqué, parce que son humour est très différent de celui des autres. Il se distingue par ses mots, par sa façon d'aborder les sujets, et donc vraiment il se distingue dans la rue. Et d'ailleurs, l'un de ses deuxième ou troisième sujets, qui est assez culotté, il va voir les gens dans la rue en disant « Est-ce que vous me reconnaissez ?» Et il propose aux gens des autographes gratuits en disant « Si vous voulez, je vous signe un autographe. » Les gens le reconnaissaient plus ou moins, mais c'est vrai que ça lui a apporté beaucoup de notoriété.
Mais c'est marrant parce qu'on a à tort la preuve avec ce sketch, garder le souvenir d'une télévision française verrouillée dans les années 70. Là, c'est quand même le président de la République en exercice qui est brocardé par deux humoristes.
Oui, c'était quand même verrouillé par derrière, mais on ne pouvait pas non plus tout coincer. Donc, il fallait montrer que le président de la République avait un peu d'humour, ce qui surprenait les spectateurs. Mmh. Et donc, on laissait passer une certaine dérision, mais il ne fallait pas aller trop loin. Il ne fallait pas se moquer des institutions. On pouvait se moquer des personnages, et Jacques Martin le faisait très bien, mais jamais des institutions.
Desproges qui a aussi marqué l'histoire de la radio avec une émission, Le Tribunal des flagrants délits. On y revient tout de suite sur RTL.
Vous écoutez RTL.
De 14h à 15h,
la curiosité est un vilain défaut.
La saga Desproges sur RTL avec le journaliste Philippe Durand. L'en disait tout à l'heure Pierre Desproges et pas Philippe Desproges, non, c'était aussi un homme de radio avec Le Tribunal des flagrants délires, émission culte évidemment de France Inter. Et dans votre biographie de Pierre Desproges aux éditions en First Document, vous racontez plein d'histoires autour de cette émission de radio et notamment le jour où Coluche en est l'invité. Qu'est-ce qui se passe?
Mais en fait, il se passe rien, c'est ça qui est triste. Non mais sérieusement,
ils sont pas drôles
parce qu'en fait toute la France à ce moment-là s'est mise devant son poste de radio, et ça je m'en souviens parce que j'y étais, et on s'attendait vraiment à un feu d'artifice Coluche Desproges, et en fait chacun est resté dans son camp sans jamais attaquer l'autre, parce qu'ils avaient un respect l'un vis-à-vis de l'autre, et surtout ils avaient peur que l'autre tout d'un coup s'il dégaine. C'était vraiment un duel, c'est-à-dire que le premier qui sort son flingue il va peut-être flinguer l'autre.
Donc ça veut dire qu'ils étaient potes aussi?
Ils étaient peut-être pas potes, mais ils se respectaient beaucoup, ils se connaissaient bien, ils appréciaient chacun l'humour de l'autre, et ils savaient ne pas l'attaquer pour éviter justement de recevoir d'autres attaques.
Oui, mais en revanche, Desproges qui savait avoir la dent dure, et quand il avait une idée, ben, il la balançait. Mmh. Sur les Restos du cœur, qui est quand même l'œuvre de Coluche sur les dernières années de sa vie, il était assez vachard aussi. Qu'est-ce qu'il disait sur les Restos du cœur?
Il reprochait à Coluche de se servir de son cœur, si je puis dire, pour faire de la publicité. Et lui disait, moi aussi j'ai mes pauvres, mais je n'en parle pas. Et donc c'était une démarche assez singulière de la part de Desproges, mais c'est vrai qu'il avait une dent très très dure sur cette histoire de Restos du cœur, qui pourtant prouvait leur utilité, ouais. Mais lui n'y croyait pas, il y voyait que de la publicité pour Coluche.
Et de la sensiblerie en fait, c'était aussi,
oui,
c'était aussi ce qu'il disait.
Il ne supportait pas qu'on joue trop sur la corde sensible.
Merci beaucoup Philippe Durand, votre Pierre Desproges, cette biographie est à lire chez First Document. À bientôt.
À très bientôt, micro de la curiosité.
Merci.
Vous écoutez RTL.